France Inter.
Club. Go. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous en direct dans Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française avec, sous les lumières du studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques, Marion Guilbault en personne. Bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Ce soir, programme artificiel et très intelligent avec Benoît Carré, Aurélien Hérault et Raphaël. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, on revient sur le dossier intelligence artificielle qui agite le milieu de la musique, entre crainte, calcul exponentiel, problème de droit d'auteur, usurpation de voix, outils de création sophistiqués, algorithmes. Pour en parler et partager leur expérience avec nous, Benoît Carré, musicien, compositeur et expert dans la création de musique à partir de l'intelligence artificielle et même co-signé avec l'intelligence artificielle. À ses côtés, Aurélien Hérault, chef innovation chez Deezer. Pour vous, Raphaël, en rose et bleu ce soir, c'est l'espoir.
Oui.
Voilà. Premier single d'un album à venir et une bande originale aussi, celle de Soudain Seul, le prochain film de Thomas Bigodin. Et oui, c'est vrai, ça sort le 6 décembre prochain. On n'oublie rien.
Non.
Pour vous, Marion ?
Eh bien, je vais profiter de la présence intelligente, pas artificielle et inspirante, de nos invités pour ouvrir quelques dossiers SM. SM comme scène musicale, bien sûr, ce sera vers 22h30.
Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Ouverture avec une note d'espoir, et c'est bien le moins que l'on pouvait faire en ce début de semaine. L'espoir, c'est vous qui le signez, Raphaël. On vous écoute, on en parle après.
Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien, qu'on devrait vivre sans penser à demain, qu'on n'a pas le temps du malheur, qu'on n'a pas le temps pour le malheur. Tu n'as pas de livre sur ton étagère, tu ne connais ni ton nom ni ton père, qu'on a le droit au bonheur, qu'on a le droit au bonheur. Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu de si beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Oh. Au fond de toi, tu es encore un enfant. Qu'il existe un endroit au bord de l'océan où le projet c'est l'espoir, où le projet c'est l'espoir. Tu dis qu'il faudrait débrancher des villes, qu'il suffit d'avoir un arbre quelque part, qu'on pourrait atteindre l'autre rive, qu'on pourrait atteindre la rive. Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Ouh. Chance avant que ne s'efface notre enfance, qu'on a attendu le bonheur, qu'on a attendu le bonheur. Tu dis que nous sommes de cœurs solitaires, à passer cette vie sous une serre, à espérer dans le noir, à espérer dans le noir. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer, je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi.
L'espoir, c'est le premier single d'un album attendu pour 2014, au printemps.
Oui.
Vous dégainez tôt, Raphaël, 4 mois d'ici mars.
Ah ouais, je sais pas, je me rends pas compte, c'est comme ça, c'est les pratiques, je crois, actuelles, de sortir des chansons un peu longtemps avant. Mais comment, je suis très content, je suis très ému, parce que c'est la première fois que je l'entends la radio, alors c'est pour ça que j'ai mis le casque à fond et tout, j'étais complètement dedans. Non, c'est bien, c'est beau, ça me plaît.
Vous vous souvenez du moment où vous avez trouvé le texte et la musique ?
Oui, oui, je me souviens très bien, c'était au mois de juin. Un matin, juste avant d'aller faire mon tennis.
Parce que vous êtes un tennisman accompli.
Accompli, non, mais enfin, je suis un passionné en tout cas.
Ouais, vous pratiquez souvent.
Oui, oui, oui.
Tous les jours.
Trois fois par semaine.
Ah, vous avez le temps.
J'ai le temps, ouais, j'ai beaucoup de temps.
Et donc, la chanson vous est arrivée au moment où vous alliez au tennis.
Exactement, j'avais mon short, comme ça j'étais tout à fait prêt. En plus, il faisait chaud, c'était l'été. Non, mais je dirais que c'est assez mystérieux. Moi, je cherche tous les jours des chansons. En fait, c'est vraiment comme quelqu'un qui cherche de l'or dans une rivière, quoi. Et puis de temps en temps, on tombe sur quelque chose qui est à la fois simple et à la fois mystérieux, qui ressemble pas à ce que vous avez fait avant. Et c'est très rare finalement. Donc cette chanson, moi, je trouve qu'elle a quelque chose de magique et de particulier, que peut-être comme une chanson que j'attendais depuis longtemps, depuis plusieurs années.
Mais c'est la musique qui vous est arrivée, c'est le texte ou tout
les deux, tout arrive en même temps. Ouais.
Vous avez incarné, vous avez comment vous faites?
Moi, ouais, j'ai un dictaphone de mon
tout
iPhone.
Tout de suite, vous notez.
Ouais, ouais, celle-là c'est à la guitare, mais c'est devant le piano. Je suis pas très, j'ai pas une technologie très avancée. C'est vraiment un piano, une guitare et un dictaphone. Mais après, je produis. Mais au début, c'est vraiment juste comme un carnet de notes, quoi.
Je vous présente Benoît Carré, auteur, compositeur, interprète. Vous aussi, vous avez un dictaphone ou vous êtes plus élaboré?
Non, j'ai aussi un dictaphone.
Mais vous êtes très élaboré et vous serez beaucoup. À ses côtés, Aurélien Hérault de Deezer. Je ne sais pas si vous vous connaissez. Je pense que non. Vous êtes rencontrés dans la loge tout à l'heure. Exactement. On va parler d'intelligence artificielle avec vous dans quelques instants. Un sujet qui vous intéresse d'ailleurs, Raphaël.
Oui, beaucoup, beaucoup.
Dans la musique.
Ouais, dans tout.
Et dans la musique, est-ce qu'on vous a contacté, par exemple, comme d'autres chanteurs, compositeurs, ont pu être contactés pour travailler avec les logiciels d'intelligence artificielle?
Non, mais après, j'ai écouté des choses très étonnantes, des musiques générées par ordinateur. Je sais pas, il y a des computer musiques comme ça qui sont faites par, à la manière de Bach, par exemple. C'est des espèces de suites de Bach et il faudrait être assez fort pour voir la différence entre Bach et la musique qui est générée par l'ordinateur. Après, ce qui est différent, c'est qu'on sait qu'il y a un type qui, il y a quelques siècles, a eu une âme et qui a fabriqué ça. Mais bon, en tout cas, à l'écoute, c'est très beau, quoi. C'est très étonnant.
On va revenir sur le dossier avec nos invités.
Mais il a fallu que Bach, quand même, fabrique le...
Il faut que la machine se nourrisse.
Le moule original. Voilà.
Le dernier album remonte à 2021, Raphaël. C'était Haute Fidélité. Le 10e est annoncé pour mars 2024. Oui. 12 chansons, c'est ça?
Ouais, je sais pas, 10, 12.
10, 12. Tout est enregistré.
Ouais, une dernière qui tout est enregistré.
Vous avez le titre?
Fini. J'ai encore des petites hésitations.
Le titre, c'est une des chansons ou pas?
Oui, ce sera une des chansons.
L'espoir, non?
Non. Non, c'était déjà pris. Il y a quand même un petit livre un peu célèbre.
Ben oui, exactement. Ouais. Ben c'est pour ça. On vous a laissé en 2021 avec ce son, le train du soir.
Le train du soir file vers toi derrière les montagnes. Le dernier ferry. Paradis, la compagnie, les soldats du corail qui boivent, qui chantent et qui déraillent, qui déraillent, qui déraillent, qui déraillent.
Ça, c'était en 2021, aujourd'hui 2023, un nouveau single, L'Espoir. Qu'est-ce qu'il annonce sur le plan musical de l'album à venir?
Il est assez différent de l'album à venir. L'album à venir est très produit. J'ai fait ça avec les deux producteurs de L'Homme Pâle. Donc c'est un son, je dirais, assez urbain. C'est vite dit, je sais plus vraiment, je serais pas capable de définir. Mais je dirais que c'est très produit, que c'est original, c'est des choses que j'ai jamais entendues en chanson française, où il y a beaucoup de choses avec des traitements de voix, des productions différentes, des chansons. Je crois que c'est particulier, c'est un disque particulier, et en même temps, j'espère, accessible, très direct, quoi. Et après, cette chanson, L'Espoir aussi, je pense qu'elle est très accessible. Celle-là est plus simple, c'est comme une balade folle, quoi. Mais,
tout à fait, oui. Je me suis demandé si c'était la direction de l'album.
C'est pas la direction du disque. Il y a deux chansons comme ça. Ouais, deux, trois, et ensuite le reste est plus... Mais ça reste très simple, quoi. Je dirais que c'est quand même assez acoustique.
Ceux qui ont travaillé avec L'Homme Pâle, ce n'est pas votre génération, Ce n'est pas la même non plus, loin de là.
C'est non. Alors ils sont
un peu plus jeunes.
Il y en a un qui a 45 ans, donc il a deux ans de moins que moi. Et l'autre, je considère qu'on est.
Oui, c'est la même génération.
Genre, j'aurais été en quatrième, il était en sixième. Oui. J'aurais pu éventuellement.
Vous auriez pu lui taper dessus. Enfin, oui, c'était vraiment ça. Très bien.
C'était pas mon genre, mais bon, en tout cas.
Et
l'autre est Louis Gabriel. Il a 29 ans, 30 ans. Donc lui, effectivement, c'est une autre génération.
Qu'est-ce que vous êtes allé chercher de ce côté-là?
Ben, je dirais que déjà moi j'aime le son de Lombal, j'aime sa production, j'ai été le voir en concert et j'aime bien cette, je trouve qu'il fait du rock quoi, il fait vraiment quelque chose et en même temps il amène une modernité. Et puis j'aime bien comment il découpe les mots, je sais pas, ça me plaît. Et ensuite, il travaille très différemment quoi, tout est dans un ordinateur, ils prennent ma voix, ils la mettent dans des harmonizers, des choses comme ça, ils la découpent et ça va très vite et c'est comme un lâcher prise et moi ça me fait à chaque fois des surprises merveilleuses quoi. Et puis j'adore, c'est comme si vraiment vous êtes tout le temps habillé de la même manière, on vous sort de vos fringues pour vous mettre un truc rose magnifique
comme on voit ce soir.
Non, c'est très et puis c'est des très bons musiciens, ils sont à l'écoute des chansons, ils essayent pas justement de travestir ou de faire un truc faussement moderne. Je crois que c'est des super musiciens.
Aurélien Hérault, vous écoutez qui vous en ce moment?
J'écoute beaucoup de choses, beaucoup d'électro, surtout.
Plutôt de l'électro.
Oui, plutôt de l'électro en ce moment.
Toxic française Avenger, ou française, internationale? Française.
Oui, surtout française, comme Toxic Avenger.
Ah bah oui.
Voilà.
Et vous, Benoît Carrel?
J'écoute beaucoup le dernier album de Blonde Redhead, dont je suis absolument fan. Et c'est ce que, vraiment, j'écoute que ça en ce moment.
Très bien. Voilà. La dernière fois qu'on s'est vu, Raphaël, c'était pour le premier roman, Avalanche. Oui. Mais il y avait eu aussi votre concert-spectacle formidable, vraiment mis en scène par Guillaume Vincent. C'était vraiment un concert scénographié, théâtralisé. Est-ce que vous allez renouveler l'expérience ou vous allez retrouver le format concert plus traditionnel avec son Bonsoir Paris ou n'importe quelle ville de France et puis le faux départ, les applaudissements, les bis?
Eh bien non, on va continuer sur cette lancée.
Ouais. Bah oui, quand on a goûté à ça.
Quand on a goûté à ça, c'est difficile de changer. Ouais, c'est vrai que c'est. Donc, je suis en train de réfléchir à une création avec un autre metteur en scène que j'admire beaucoup. Donc c'est assez embryonnaire encore. On n'a pas encore tout à fait les dates certaines, mais en tout cas, ça va être en, je dirais, début 2025, quoi.
Quelque chose de scénographie, alors théâtralisé.
Oui, enfin, en tout cas, une création pareille, un peu dans le même esprit, quoi, qui soit un objet. Un peu ovniesque ou hybride, quoi, pas un concert Bonsoir Paris, la géographie du groupe de rock, et merci, c'était le meilleur public que j'ai jamais vu de ma vie.
Et ce sera aussi dans un lieu, là c'était dans un lieu prestigieux, puis qui s'accordait merveilleusement, c'était les Bouffes du Nord, oui, à Paris. Vous allez aussi trouver un autre lieu, vous allez revenir dans cet espace.
Peut-être revenir aux Bouffes, peut-être. C'est pareil, c'est le plus bel endroit de. C'est la plus belle salle de théâtre de Paris, c'est merveilleux.
Qu'est-ce que cet album qui va sortir doit à ce concert scénographié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est joué là, même dans l'écriture, dans la façon même de penser, ce que ça allait donner plus tard sur scène?
Non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment des choses très, très indépendantes. C'était déjà un... Après, bon, on apprend de chaque chose. Donc, peut-être moi, le concert scénographié, il m'a permis de me mettre au piano un peu plus sérieusement. Donc, j'ai beaucoup travaillé le piano. Enfin, beaucoup. Un peu travaillé le piano depuis...
Ouais, entre le tennis et le piano.
Voilà, exactement. Et c'est vrai, c'est mes passions. Donc j'ai beaucoup travaillé le piano et donc peut-être ça se ressent parce que il y a des harmonies que je connaissais pas avant, des accords, des choses comme ça qui traversent le disque. Peut-être qu'on le ressent, mais je dirais que non, c'est des choses indépendantes. C'est vraiment un disque, c'est pas si conceptuel que ça. C'est vraiment des chansons qui racontent très simplement ce qu'on vit, ce qu'on pense, nos émotions. Souvent même c'est assez inconscient comme ça, c'est ce qu'on parfois, par exemple, quand j'écoute des anciens disques, je me dis c'est comme si la musique prévoyait le futur ou de ce qui allait m'arriver.
Vous pensez à quoi?
Je sais pas, je peux pas donner un exemple. C'est pas vraiment tu vas faire ça ce jour-là. Ouais. C'est plus impressionniste que ça, mais je dirais que en tout cas c'est largement accidentel. C'est des pensées, on essaie de les rendre les plus émotionnelles possibles, les plus accessibles possibles, et puis que ça puisse toucher le cœur des gens, très humblement et très simplement, je crois que c'est...
Ça sera le 10e album?
Ouais, c'est le 10e album, oui.
Se pose, j'imagine, toujours la même question, que vais-je chanter, qu'ai-je à dire? Et j'ai pu lire que l'album serait familial, qu'il y aurait une chanson sur votre père, Joël.
Oui, c'est vrai, comment vous savez ça?
Ben, je sais pas, je l'ai lu, je me suis un peu renseigné, j'ai travaillé,
j'étais un petit flic. Je n'ai pas dit ces choses-là, c'est très étrange.
Sur votre père, donc Joël Laroche, qui a été avocat, qui est aujourd'hui écrivain.
C'est vrai.
Est-ce qu'il a pris part à votre construction musicale, Raphaël ?
Mon père ? Non, je crois pas. Mon père, je crois qu'il écoutait tout le temps les Bee Gees, je crois, toute la journée, quoi. Un truc comme ça. I Started a Joke, il aimait bien cette chanson. C'est les Bee Gees, c'est ça, non ?
Oui,
magnifique chanson.
Ouais.
Très belle chanson, magnifique. Mais il écoutait beaucoup cette chanson, et puis sinon, il écoutait beaucoup de la musique classique, je crois, c'était ça. Mais non, je pense pas. Enfin, forcément, un petit peu. Mais je dirais que c'est une chanson qui parle de. D'être sur les épaules de quelqu'un comme ça et de voir le monde avec une altitude incroyable et de c'est ça, si tu avais pouvoir le comme ça l'altitude où je volais, quoi, le temps qui s'étirait à jamais. C'est une chanson assez nostalgique de moments très bénis comme ça, très merveilleux.
Je sais aussi que normalement il devrait y avoir des chansons sur vos enfants. C'est ça ?
Avec non, même non, un non,
de
non,
vos
non,
il y a
non.
pas un de vos garçons qui chante sur l'album avec vous ?
Il y a mon petit Alyosha qui fait des chœurs, oui, c'est vrai qu'il chante avec moi. Mais c'est pas, il n'y a pas une chanson sur mes enfants. Mais je dirais que c'est comme si la vie s'invite dans la musique. Donc, moi, quand je travaille, je suis à la table de ma cuisine, forcément, il y a une porosité. Donc,
vos enfants vous voient travailler ?
Oui, ils me voient surtout rien foutre souvent. Mais ouais, ils ont pendant longtemps. Quand j'étais petit, quand ils étaient petits, je faisais beaucoup de boxe. Et un jour, on me demande est-ce que t'es content du métier de ton papa. Et je dis il est boxeur, mais ouais, je sais pas très bien s'il s'en sort. Je sais pas très bien comment il gagne sa vie. Mais ouais, parce que c'est vrai que c'est très. J'ai pas les mêmes horaires. Il m'arrive de me lever tôt et il m'arrive de faire des siestes coupables comme ça l'après-midi. Des fois, je fais une petite comme je me lève ou je me couche à 5h du mat ou je sais pas quoi. Mais il faut quand même se lever avant que les enfants rentrent, parce que il rentre et qu'il voit un type allongé dans un canapé, c'est un cauchemar, quoi. C'est pas possible. Imaginez les années d'analyse que ça représente.
Qu'est-ce qu'ils écoutent, vos enfants, comme musique ?
Qu'est-ce qu'ils écoutent, mes enfants, comme musique ? Bah, jusque longtemps, ils sont restés un peu dans ce que nous, on écoute, quoi. Je sais pas, ils peuvent écouter Chet Baker ou Bill Evans ou Nina Simone, ils adorent ça. Et après, maintenant, le grand, il commence à avoir vraiment ses goûts. Alors, il est fan des Red Hot, moi aussi. Hein,
mais c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Fan des Red Hot. Et après, il aime bien des groupes de rap. Il aime bien L'Homme Pâle. Je l'ai emmené au concert de L'Homme Pâle. Il a vraiment bien aimé, par exemple. Et il aime bien des groupes de rap qui ressemblent un peu aux Streets, le groupe anglais, mais c'est pas les Streets. C'est un truc. Vous voyez ce que c'est ?
The Streets, ouais.
Oui, ouais, mais c'est pas The Streets, c'est un truc de The Streets, mais aujourd'hui, quoi. C'est des mecs, c'est exactement pareil, mais enfin, c'est très proche, quoi. Mais c'est pas The Streets, quoi. Mais ils sont très, très, très connus, quoi. Genre, je sais pas, 700 millions d'écoutes par jour sur
Deezer. On va en parler dans quelques instants. Raphaël, vous restez avec nous, on va parler d'intelligence artificielle avec Benoît Carré et Aurélien Hérault. On va ouvrir les dossiers SM de Marion Guilbeault, mais d'abord, les Québécois de Bibi Club mettent le feu sur France Inter.
Rassure, la presse.
Et le ciel met le feu, Marion Guilbeault en maîtresse à scène comme scène musicale.
Côté club, les dossiers SM.
Sur France Inter.
Premier dossier SM de la semaine, celui sur Spotify qui va modifier son système de royauté en 2024. C'est à lire dans Tsugi et c'est signé Léa Formentel. Ça fait 15 ans que le système de royauté de Spotify n'a pas bougé. Mais voilà, dès janvier 2024, tout va changer. Tous les titres devront atteindre un seuil minimum de 1000 streams en 12 mois pour être rémunérés contre 200 streams auparavant. Avec en plus une pénalité pour les labels et les distributeurs s'ils diffusent des flux frauduleux. En ce qui concerne les fameux bruits blancs et autres sons de vagues, ils nécessiteront, eux, d'un temps d'écoute minimum plus long que les pistes musicales pour être rémunérés. Aujourd'hui, le modèle se base sur une rémunération de 5 centimes après environ 200 écoutes. Un artiste indépendant de taille moyenne verrait donc ses royautés baisser et les gros artistes s'enrichiraient encore plus.
Mais ce sera vraiment le cas ?
Eh bien, en fait, selon l'article de Tsugi, il semblerait que 1000 streams sur une période de 12 mois représentent au maximum 3 dollars de revenus. C'est quand même rien. Ces mêmes 3 dollars sont bien inférieurs au seuil à partir duquel presque tous les distributeurs autorisent les artistes à transférer leurs gains sur leur compte bancaire. En d'autres termes, on parle là d'un argent qui n'est actuellement pas versé aux artistes. En 2024, Spotify estime que 40 millions de dollars, qui avant auraient été versés aux titres ayant moins de 1000 streams, seront transférés à ceux ayant plus de 1000 streams. Donc, de plus, en sanctionnant financièrement les flux frauduleux, la plateforme pourra augmenter les royautés pour les artistes. Alors, est-ce que ce changement sera vraiment bénéfique pour les artistes émergents ? Affaire à suivre. Autre dossier SM de la semaine, celui sur les comptes de fans sur les réseaux sociaux. Alors avant, vous aviez les fan clubs avec leurs réunions, leurs courriers, les cartes postales dédicacées. Aujourd'hui, les fans sont sur les internets et relaient l'actualité de leurs artistes préférés au point de devenir des partenaires de leur communication. C'est un sujet soulevé par Bruce Bossavi dans Libération qui prend un exemple concret. Le 3 novembre 2022, Tiakola est en concert à Bruxelles. En plein milieu de celui-ci, le rappeur s'interrompt pour faire monter sur scène Jennifer, une fan de la première heure, et il lui remet un disque d'or. Alors pourquoi un tel honneur ? Eh bien pour la remercier de son activité sur les réseaux sociaux avec Tiakola Mundala, un compte fan à plusieurs centaines de milliers d'abonnés qui relaie depuis son téléphone toute l'actualité de l'artiste et qu'elle anime Jennifer depuis ses 14 ans.
J'imagine qu'elle est loin d'être un cas isolé.
Oh oui, il y a de plus en plus de comptes de fans d'artistes sur les réseaux sociaux, des comptes qui parfois se transforment en vrais leviers de promotion et de marketing, comme Espace Aya Nakamura Fan, animé par Marc sur X avec 6000 abonnés. Lors d'une sortie d'un nouveau single de la chanteuse, le compte peut parfois organiser une streaming party dont le but est de pousser les fans à jouer le titre au maximum sur les plateformes. En gros, ce sont les fans qui font le boulot et gratuitement en plus.
Est-ce qu'on peut parler d'une vraie collaboration ?
Ça peut arriver, par exemple, le 17 août dernier, toujours avec Aya Nakamura, qui a posté par surprise 3 nouveaux titres pour augmenter son 4e album. 3 jours avant, le compte Espace Aya Nakamura sur X a publié des tweets pour annoncer une surprise imminente accompagnée de ce message. Si je ne dévoile pas tout clairement, c'est par respect pour Aya et son équipe qui en ont fait la demande. C'est vraiment une communication orchestrée avec la maison de disques d'Aya pour faire monter l'attente et la curiosité des fans. Voilà, une espèce de relation donnant-donnant, parfois récompensée par un disque d'or. Pour l'artiste comme pour les fans, une enquête à lire, à retrouver dans Libération. Aurélien Hérault, le système de royauté qui change chez Spotify, qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est quelque chose qu'on a déjà fait au mois de septembre et c'est quelque chose qu'on souhaite changer depuis 2015.
Deezer.
Oui, chez Deezer, avec la promotion de l'UCPS. Après toutes ces années d'activité, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un besoin de changer le modèle. C'est vrai qu'au début, quand on démarre, on n'a pas une vision claire sur l'avenir. Mais sur ce modèle-là, avec les données qu'on avait, on milite pas mal pour changer le modèle économique et je suis ravi que...
Et c'est un système plus juste alors, ça va vraiment être plus juste.
On essaye de faire en sorte que ce soit plus juste. Après, on pourra peut-être aborder les raisons du pourquoi on pense que c'est plus juste, mais oui, ça va dans le bon sens.
Les comptes de fans qui travaillent gratuitement pour les artistes, vous avez un avis sur la question, Raphaël et Benoît Carré ?
Moi, aucun avis, non.
Non.
Ben non, moi non plus, mais c'est bien, enfin, si ça peut aider.
Si ça peut aider les artistes,
oui. Ouais.
Vous n'auriez pas besoin d'en avoir un ? Raphaël?
Bah, je sais pas, non, j'en sais rien.
Je peux demander à ma nièce.
Bah, pourquoi pas. Moi, j'ai... Non, ma mère, déjà, elle écoute beaucoup mes chansons, comme ça, je pense qu'elle triche un peu les statistiques.
elle booste les streams.
Elle fait au moins 10 trucs par jour de l'espoir en ce moment, en disant, est-ce que tu l'as vu? Ça a monté.
Ça a monté.
Ça a monté, forcément. Ça peut pas baisser, a priori, ça peut pas baisser, déjà. C'est déjà une
ça,
bonne
c'est
nouvelle.
C'est pas possible. Aurélien Hérault et Benoît Carré sont les invités de Côté Club ce soir. Mais qu'est-ce qu'on entend là, Benoît Carré ? Vous resituez, vous recontextualisez. On est en 2015.
Oui, on est en 2016 même. Je suis rentré dans le labo Sony CSL en tant que musicien en résidence. L'idée, c'est que j'aide les chercheurs à développer des outils pour les musiciens, pour la création.
Des outils d'intelligence artificielle.
Des outils qui utilisent des algorithmes, c'est ça, d'intelligence artificielle. Et... J'expérimente pour la première fois avec cet outil qui s'appelle Flow Machines. Et pour le tester, en fait, je prends le corpus du groupe que je connais le mieux, c'est-à-dire les Beatles, et je nourris la machine avec mes chansons préférées des Beatles, et il y en a 54 en tout. Voilà, je me souviens de ce chiffre. Et avec ce corpus, et ben la machine qui a analysé toutes ces partitions, elle m'a fait des propositions... 4, 8 mesures, 7 mesures, enfin voilà, un certain nombre de propositions musicales que j'ai assemblées, que j'ai corrigées pour faire une chanson dans le style des Beatles. Voilà.
Le titre, c'est Daddy's Car.
Oui, j'ai écrit des paroles très rapidement. J'ai fait une démo en un week-end très rapidement, juste pour avoir une idée de ce que ça donnerait enregistré. Et j'ai eu ce résultat qu'on a posté sur YouTube.
Et qui a fait date? Vous connaissiez ce titre, j'imagine,
oui.
Aurélien Hérault?
Oui, ça en fait partie.
Oui, ça fait partie de la construction, aujourd'hui, de tout le développement numérique. Vous le connaissiez aussi
Non, mais c'est bien, c'est très Beatles, quoi.
Ouais, bah ouais, c'était très Beatles, c'était chez Expert.
Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a beaucoup écouté les Beatles.
Oui, avant de poursuivre...
C'est un mélange entre la machine et moi. Voilà.
Avant de poursuivre, je vais refaire l'histoire avec nos deux invités. Benoît Carré, donc, auteur, compositeur, interprète, qui depuis 2015 travaille... avec l'intelligence artificielle. Actuellement, vous travaillez sur un projet autour d'hybridation vocale et notamment sur une nouvelle technologie de clonage en open source. On va y venir. À vos côtés donc, Aurélien Hérault, chef innovation chez Deezer, c'est-à-dire...
Directeur de l'innovation, en charge de la recherche et développement, data science, voilà.
D'abord, un mot sur votre parcours, Benoît Carré, en quelques sons. Au départ, donc, auteur, compositeur, interprète, avec le groupe Lilycube, que vous avez fondé en 93, il y a donc 30 ans, 5 albums depuis 2008. À cette époque, vous étiez déjà intéressé par le travail sur le son, le bidouillage?
Oui, j'ai toujours associé en fait l'écriture des chansons avec l'accident, que ce soit avec un piano, une guitare ou un ordinateur, pour essayer de sortir de ma zone de confort, de ce que je connais en fait. Et créer des accidents, ça voulait dire un peu laisser aller ses doigts, ou alors laisser à des moments l'ordinateur partir dans des directions que j'avais pas prévues.
2015, virage numérique, donc avec le Dadiscar que l'on a entendu, donc c'était en 2016. Et surtout, vous signez sous le nom de Skige, un premier album pop co-composé avec l'IA, avec donc Flow Machines, Hello World. On y entend Stromae sur cette chanson, Hello Shadow. Stromae qu'on entend ?
Non, c'est Kiza en fait, c'est une chanteuse américaine. Stromae a écrit avec moi la musique et Kiza a écrit les paroles. Voilà, on a composé cette chanson avec Stromae en prenant des styles de musique que lui aime beaucoup, la musique du Cap-Vert et puis d'autres musiques qu'on a assemblées comme ça, qu'on a données à la machine. Et après, elle nous a fait des propositions qui ont inspiré Stromae, qui l'a un peu sélectionné, et puis ensuite voilà, on a créé ce titre.
Est-ce que Stromae a continué par la suite avec l'intelligence artificielle pour ses propres compositions ?
Non, il n'a pas continué. Enfin, à ma connaissance, non. Il a utilisé d'autres technologies, pas pour la composition, mais pour la production, je crois.
Ouais. Puis arrive un autre EP, American Folk Songs. Cette fois, le registre, c'est de la folk américaine, avec un prototype d'orchestration basé sur le transfert de style. Comme je ne comprends absolument pas ce que je viens de dire, explication pour le titre, Black is the Color. On écoute d'abord la méthode, et comme vous parlez en anglais sur YouTube, c'est Hugo Emprunt du numérique France Inter qui va vous doubler.
Black, black, black is the color. Started this
project. J'ai commencé ce projet avec une chanson des Appalaches qui était chantée par Pete Seeger en 1958. Et dans cette version, il n'y a pas d'harmonie. C'était un gros challenge de demander à la machine d'harmoniser cette chanson. J'ai commencé à imaginer quel chemin pourrait être intéressant pour alimenter cette machine. Et j'ai joué des séquences d'accords très simples, dans le style des musiques de films épiques. Alors, le système a généré une très bonne harmonisation. C'est très beau. Donc là, j'avais mon premier pas. J'avais ma mélodie, puis les harmonies sous la mélodie. À partir de là, j'ai cherché un arrangement et j'ai pensé à des cordes dans un style bossa nova, car elles sont très sophistiquées. J'ai demandé à un talentueux musicien, Lionel Gaget, d'improviser sur ce style d'arrangement de cordes bossa nova. Donc les choix artistiques ont commencé à ce moment, en nourrissant la machine avec de la bonne musique. Le système a proposé des harmonies et des arrangements incroyables. J'ai juste eu à séparer toutes les voix pour assigner chaque voix à un instrument. Violon, alto, violoncelle et contrebasse. Pour écouter ce magnifique arrangement généré par la machine, joué par de vrais musiciens.
Et maintenant, voici ce que cela donne avec donc un quatuor du Philharmonique de Radio France.
Black, black, black is the color of my true love's hair. Her face is something wondrous fair. The purest eyes and the daintiest hands. I love.
Donc une co-création avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça vous inspire, Aurélien Hérault de Deezer ?
Je trouve ça merveilleux. Enfin, c'est l'accès à un nouveau type d'instrument, beaucoup plus sophistiqué. Après, les principes restent les mêmes que de la musique électronique, que de la machine, mais voilà, on peut aller beaucoup plus loin, il y a beaucoup plus de liberté. Très intéressant.
Raphaël ?
Oui.
Est-ce que ça vous tente ce genre de, de propositions ou même de projets?
On l'utilise beaucoup déjà l'intelligence artificielle en studio. On l'utilise, il y a énormément de justement quand je vous parlais des harmonizers ou des choses comme ça, c'est à peu près le même principe. Quoi. Ils prennent votre voix, ils l'harmonisent. Vous pouvez changer complètement vous lui donnez une tonalité ou deux trois tonalités. Et ensuite, c'est un outil quoi, un outil supplémentaire. Après, je sais pas si dans la musique que je fais, c'est révolutionnaire dans. Ça apporte des couleurs, des choses de production. Certaines vont être à la mode à une époque, d'autres à une autre époque. Je sais pas. Je me pose la question, bien sûr, de l'intelligence artificielle. En général, j'ai évidemment pas la réponse. De toute façon, on va vers l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Ça va être encore beaucoup plus important dans la médecine où on n'aura plus le choix. Ça va être, je veux dire, qui voudra être soigné encore par des médecins quand une machine ne se trompera jamais, quoi, jamais. Alors qu'un médecin, il y a quand même Avec ça, il y a d'autres choses qui vont passer qui sont extrêmement angoissantes. Enfin, tout le monde le sait, quoi.
Voilà. On va parler aussi de ce qui peut angoisser.
Après, c'est, en tout cas dans la musique, je crois que c'est un outil très intéressant. Voilà.
Benoît Carré, vous travaillez aujourd'hui sur les hybridations vocales et une nouvelle technologie de clonage en open source. Ça consiste en quoi ?
Je vais juste revenir d'abord sur le fait que... Dans la traduction, je dis magnifique, tout ça, beau. C'est... j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu des moments où il y a eu des très beaux résultats.
Qui sont arrivés, oui.
Et je dois dire que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les résultats sont très imparfaits et que justement l'IA ne propose pas des espèces de choix parfaits, des espèces de choix non discutables, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des accidents, des erreurs, des choses qui sont quand même belles. Et je rejoins le chercheur d'or, en fait, quand on est... avec ces outils, on est un peu comme un chercheur d'or qui va essayer de trouver les pépites qui vont être vraiment inspirantes parmi un ensemble de résultats qui sont sans intérêt. Enfin, je veux dire, voilà, il faut remettre aussi cet aspect-là que démystifier un peu l'IA comme une espèce d'entité qui produirait de la perfection.
Et qui résoudrait tout.
Et puis on a beaucoup de choses très accidentelles qui se passent dans la musique non-IA.
Exactement,
Tout le temps, je ne sais pas, un café qui se fout sur une bande, un truc qui se met à l'envers, je ne sais pas, l'écho d'une basse ou d'un son qui se dit « Ah bah tiens, en fait, c'est ça le morceau », et puis on utilise ça tout le temps, en fait, l'accident, quoi.
Tout le temps, et les Beatles, par exemple, ont découpé des bandes qu'ils avaient enregistrées d'un orchestre qu'ils ont mis dans un album dans Revolver. Ils ont jeté par terre les bandes et puis ils recomposaient. Donc ça fait partie de toute façon de la création. Ouais.
C'est quoi cette nouvelle technologie de clonage en open source ?
Le clonage, en fait, tout le monde a un peu entendu les clones, les chansons de Drake, The Weeknd.
Ariana Grande qui chante du Billie Eilish, voilà, etc.
Oui, ça c'est une technologie en fait qui est devenue hyper très efficace. Ces derniers mois, en fait, ça a complètement explosé parce que la technologie marche très très bien. Et du coup, il y a plein de gens qui font des expériences plus ou moins réussies sur le net et qui les partagent sans l'accord des chanteurs qui sont clonés, ce qui est pas bon. Après, ils sont évidemment interdits. Mais cette technologie, bon, elle est dans l'imitation, effectivement, elle est très bonne. Mais moi, je m'en sers en fait plus pour faire de l'hybridation, un peu sur. Le modèle d'un projet qui a été développé par l'IRCAM il n'y a pas longtemps, par une artiste qui s'appelle Judith Deschamps, qui a créé la voix de Farinelli, qui est un castrat du 18e, et en mélangeant, en fait, en faisant une hybridation entre des voix d'enfants, des voix de femmes, donc alto, plutôt bas, et puis des contre-ténors. Et en faisant un modèle comme ça, en mélangeant toutes ces voix, ils ont créé un modèle vocal qui produit un timbre proche de ce que pourrait être Farinelli, ce que pourrait être le timbre de Farinelli. Donc moi, ce que j'aime dans cette approche de la voix, c'est hybrider, mélanger pour créer des voix qui n'existent pas.
Voilà. Est-ce que c'est ce que vous avez fait, par exemple, sur le projet Clowns ?
C'est ce que je... Enfin oui, en fait, je suis dessus, là. Je suis en train de travailler là-dessus, et je fais beaucoup d'expérimentations, parce que, en fait, j'essaie toujours de trouver des nouveaux sons, et je trouve que Clone et Clown, c'est très proche. Et il y a quelque chose de... Enfin, une similitude que je viens de trouver. Enfin, c'est hier, quoi.
Donc, Alors, on va écouter justement peut-être un des sons de cet album. Send in the Clowns, c'est le grand classique. Isn't it best don't you approve while you keep staring the wall. One who qui veut dire que cette voix n'existe pas.
Non, c'est une voix que j'ai... Enfin, j'ai mélangé ma voix avec des chanteurs des années 30, 20-30.
J'ai fait une espèce... Marianne Faithfull, un peu.
Ouais, c'est créé une espèce de timbre que j'ai beaucoup aimé.
C'est bon.
Et ce qu'il faut, c'est quand même... ce que je veux dire, c'est que le clonage vocal, ça implique qu'il faut chanter quand même. C'est-à-dire que je dois chanter la chanson avec toutes les intonations que je veux donner à la voix. C'est-à-dire que c'est toutes les émotions que moi je donne, elles vont être augmentées ou transformées transformées par le remplacement de mon timbre par celui de l'hybridation que j'ai créé. Donc là, c'est des voix très années 20, quoi. Voilà.
Vous intéressez aussi à l'utilisation des voix clonées, Aurélien Hérault?
Tout à fait, c'est un sujet très important qu'on suit depuis quelques années déjà, parce que ça fait déjà quelques années que le voice cloning est développé. L'industrie du cinéma l'a adopté assez tôt, beaucoup moins la musique, mais ça commence, parce que la complexité sur les voix chantées, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un sujet qui nous intéresse. Et,
à quel titre ça intéresse Deezer?
Ça nous intéresse parce que on a... comme j'ai envie de dire, comme mission de gérer un catalogue de millions de titres. On en reçoit des centaines de milliers par jour et on doit se doter de tout un système de monitoring qui nous permet de garantir que les voix sont utilisées avec l'accord des ayants droit et notamment pouvoir retracer, même pour les utilisateurs, afficher une transparence de dire que cette voix est clonée. Donc aujourd'hui, on en est qu'au stade de la recherche. Mais c'est des travaux qui nous intéressent fortement.
Mais vous ne pouvez pas remonter sur toute l'histoire des voix qui ont été clonées, si ?
En fait, on a quand même un catalogue à disposition. On a développé des outils, notamment des IA, qui permettent d'isoler la voix, ce qui nous permet de créer des bases de signatures de voix et de calculer des similitudes. Aujourd'hui, on n'en est pas à une correspondance exacte, mais on est capable de dire que cette voix-là ressemble fortement à celle-ci, et ce qui nous amène à monitorer le catalogue.
Je vous voyais complètement stupéfait.
J'ai fait une crise d'angoisse, j'aurais dû prendre du Temesta
Là, c'est plutôt intéressant, ça permet justement de retracer l'historique d'une voix clonée et de voir à qui elle appartient au départ, en fait.
Oui, c'est vraiment
mais
pour
là, c'est
monitorer.
Pas, la voix, elle appartient à personne, la voix que vous avez faite.
Oui, mais il a bien fallu qu'il y ait plusieurs voix pour que cette voix existe.
On n'en est pas au
dos. C'est des voix déjà existantes, c'est pas...
Ouais, l'idée, c'est que...
En fait, c'est un mélange, quoi.
On mélange des voix...
À partir de la sienne.
J'ai fait un dataset. Un dataset, c'est un ensemble, c'est un groupe d'audio, en fait. Voilà. Il suffit de... Donc, il faut enregistrer sa voix, donner des enregistrements de sa voix, déjà, si on veut cloner sa voix. Mais on peut aujourd'hui la mélanger avec d'autres voix. Donc, il faut aller chercher des enregistrements d'autres voix pour créer un nouveau timbre, en fait.
Autant que moi, je vous avoue, en me penchant sur le dossier, j'ai trouvé ça passionnant.
Non, c'est la sophistication en fait des systèmes qui augmentent. Hier, tu parlais l'harmoniseur, le vocodeur. On rentre une voix en entrée, il y a une voix en sortie. Aujourd'hui, la technique permet d'appliquer et d'aller plus loin et de copier des voix complètes. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse, parce que ça touche l'identité d'une personne et on se doit de mettre cette technologie à la disposition des créateurs et des utilisateurs.
Il y a des intelligences artificielles aujourd'hui là, qui sont à disposition de tout le monde. Moi, j'ai essayé avec mes chansons. C'est des choses qui isolent les pistes, par exemple. Oui, ouais. Je prends un enregistrement de Caravane de 2005, je veux demander ma voix solo, et j'obtiens ma voix solo. Alors, je ne sais pas comment ils font, parce qu'ils n'ont pas les bandes.
Oui, mais en fait, on a entraîné...
C'est des fréquences qui sont enlevées, c'est
non,
ça
non, 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 on a entraîné, on a constitué des datasets où on spécifie, c'est de la guitare, les instruments, de la voix. Et ensuite, on est capable de l'appliquer à d'autres types d'enregistrements et d'isoler un certain nombre de pistes.
Alors c'est très légèrement dégradé, mais très légèrement.
Au fur et à mesure, les calculs vont être exponentiels, et ça sera vers une sorte de précision dans ce domaine-là. Vous travaillez sur plein de choses, des cas pratiques, par exemple, un classifieur qui vous permet de distinguer dans le catalogue les titres musicaux de ceux purement parlés ou des bruits.
Oui. Parce qu'en fait, on s'est aperçu il y a quelques années, enfin ça remonte un petit peu, il y a une dizaine d'années, qu'on recevait pas que de la musique dans notre catalogue. Il y avait des bruits de tondeuse, il y avait des bruits
blancs,
de pluie,
les
bruits de
blancs, voilà.
Exactement, qui nous étaient livrés sur le même flux que la musique. Et les métadonnées nous indiquaient que c'était de la musique. Donc il a fallu trouver des astuces pour pouvoir classifier correctement. Surtout quand on souhaite faire de la personnalisation et de la recommandation, on souhaite potentiellement exclure ce type de contenu. Et donc, on a entraîné des modèles, des IA, qui permettent de reconnaître sur des portions le son.
Et si vous avez un artiste d'avant-garde qui utilise des tondeuses, par exemple, ou des choses comme ça, qu'est-ce que vous faites?
Mais c'est pour ça, c'est statistique, c'est que le morceau...
Ou un petit malin, le morceau, qui essaie de baiser le système.
Exactement.
C'est tout ça, c'est découpé.
Exactement. Ouais. C'est de la statistique, donc forcément... C'est pas à 100%. Et derrière, on a aussi une équipe qui est là pour corriger tout ça.
Autre chose aussi, je disais, vous avez développé un classifieur statistique qui permet de reconnaître sur l'audio les genres musicaux et les moods associés à une chanson.
Totalement.
Et ça sert à quoi ?
Eh bien, par exemple, on a une fonctionnalité qui s'appelle Flow, qui permet de lancer une radio personnalisée sur nos goûts. Et on a ajouté toute une dimension de mood, parce qu'on s'est aperçu que les utilisateurs aimaient aussi un accès par mood. Donc on a entraîné des classifieurs pour pouvoir détecter, enfin en tout cas, regrouper les chansons par mood ou par genre, mais basé sur l'audio.
Mood, c'est humeur, justement.
L'humeur, c'est ça.
Chanson mélancolique, chanson drôle, amusante. Chanson mortuaire, oui, c'est le genre de truc que j'adore.
On pourrait entraîner sur à peu près tout et voir les résultats. Ça ne veut pas dire que tout fonctionne à 100%, mais s'il y a des caractéristiques communes, on peut les trouver.
Alors aujourd'hui, vous êtes sur quel type de projet, plus précisément, chez Deezer ? Quel est l'avenir, en fait, sur lequel vous travaillez quant aux intelligences artificielles ?
Oui, on a passé beaucoup de... Alors déjà, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on manipule les modèles d'IA. Ces derniers temps, on s'oriente plutôt sur la détection des IA dans les morceaux, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des voix clonées, est-ce qu'il y a des morceaux qui ont été utilisés dans les tracks qu'on reçoit, est-ce qu'il y a des IA génératives, jusqu'à où on peut remonter sur la génération, est-ce qu'il y a un catalogue propriétaire a été utilisé pour entraîner les IA. Alors tout ça, aujourd'hui, c'est théorique, c'est des choses qu'on souhaite faire, mais on a commencé à ouvrir les sujets de recherche pour ça.
Et les sujets de recherche sur le plan purement musical, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui anticipe l'avenir de votre côté, Benoît Carré ?
Bah, c'est vrai qu'il y a eu Flow Machines qui était un très bon outil pour donner des idées de composition. En nourrissant la machine avec ses propres références. Mais depuis, sur la composition, moi, j'ai rien, enfin, je vois pas d'outils vraiment intéressants. J'ai essayé de composer avec ChatGPT, mais c'est pas intéressant. Ça donne des résultats qui sont vraiment nuls, quoi.
Pour l'instant,
c'est pas, voilà. Mais ce qu'on voit émerger, en fait, c'est les modèles, ce qu'on appelle les agents personnels. Et ce sont des agents qui vont être qu'on va pouvoir entraîner soi-même en langage naturel sans être codeur et nourrir avec son propre matériel pour des tâches très spécifiques. Donc on peut imaginer que vous allez pouvoir mettre vos titres préférés ou imaginer un système qui va dans votre dictaphone. Vous faire des suggestions à partir de ce que vous venez de faire ou voilà, enfin c'est, je pense que l'IA va être de plus en plus démocratisée
comme un co-compositeur permanent qui vous donnera
une petite assistant. On peut imaginer des choses comme ça et je pense que c'est là où ça deviendra intéressant. Et là on est dans une espèce, je pense, pour la création, dans une espèce d'un peu de ventre mou, parce que il y a ces IA génératives qui font beaucoup de conformes, beaucoup de choses qui sont pas si intéressantes, et c'est souvent à prendre ou à laisser, et on n'a pas, en tant que créateur, la possibilité de prendre la main. Et je pense que c'est un des problèmes aujourd'hui, en tout cas sur ce qui est proposé en musique, et ce qu'on voit aussi en images avec Midjourney, Dali, tout ça, qui sont des choses un petit peu très limitées d'un point de vue créatif, quoi.
Vous confirmez, Olivier Hérault ?
Oui, tout à fait. De toute façon, on voit que le domaine de l'image est toujours un petit peu en avance sur les modèles audio, donc on peut se laisser entrevoir ce qui pourra arriver dans le futur.
Devant tant d'innovations, il faut savoir prendre du recul. Je reste calme, chante Camilla Jordana, et elle a bien raison, sur France Inter.
Sous le charme, à l'intérieur comme au bord des larmes, tu sais que je me blâme, dedans des flammes. C'est mon drame, c'est ton innocence que je clame.
Je clame,
j'ouvre les vannes à mes envies profanes. Je reste calme, mon pouce s'envole et ça colle entre nous. Je reste calme, le souffle court, je sens mon cœur. Ils sont mon phare. Tu sais que je me garde des joies du hasard. Ça repart,
ça repart, ça repart.
Tout est nouveau, tout est bizarre. Tu me narres, je m'égare. Je reste calme. Je sens mon cœur à bout, je reste calme. Mon pouce s'envole et ça colle entre nous. Je reste calme. Le souffle court, je sens mon cœur à bout. Sans secret, sans remords.
Et bien voilà, côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Aurélien Hérault, Benoît Carré, merci à vous deux.
Merci.
Merci à
toutes
vous.
Toutes ces précisions. Raphaël, merci à vous.
Merci beaucoup.
Le single, c'est l'espoir. En attendant
oui.
l'album,
oui.
au printemps.
Oui.
Les concerts scénographiés en 2025.
Oui.
On compte sur vous.
Oui, je voulais quand même juste dire cette chose, c'est que tous ces outils d'IA, là, c'est merveilleux, mais il y a surtout cette chose qu'on pourra pas enlever, c'est le bonheur qu'on a à jouer, à chanter, le plaisir unique et irremplaçable, quoi, de voilà, et ça, c'est merveilleux, et ça.
Oui, oui, c'est je suis tout à fait d'accord. Et l'IA ne résoudra jamais les problèmes, les problèmes de création et tout ce mystère-là.
Mais c'est passionnant, bien sûr, c'est fascinant ce que vous faites.
Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Demain, du riff et du bon avec nos invités Pascal Comelade et The Liminianas pour leur nouvel album Boom Boom. À leur côté, les quatre garçons Voxlo partiront en live. Côté club, c'est toute une équipe. Étienne Bertin à la réalisation, à la technique ce soir, Jérôme Ragano. Après le journal, vous retrouverez à nouveau Affaires Sensibles. Ce soir, l'affaire Péchiné, délit d'amitié, délit d'initié. Voilà, côté club, on ferme. Bonne fin de soirée.